Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous savoir très nombreux à l'écoute de Patara, le débat politique de Radio Ndikiluka. La hausse des prix ou la spéculation des prix des produits de première nécessité et des marchandises, c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Après l'assaut des rebelles de la coalition des patriotes pour le changement CPC sur Bangui, le 13 janvier dernier, repoussé par les forces armées centrafricaines avec leurs alliés russes et rwandais, l'un des corridors Bangui-Beloko qui ravitaille le pays par diverses marchandises avait été bloqué par les rebelles. Les conséquences ont été immédiates. La pénurie se fait sentir. La hausse et la spéculation des prix s'en sont automatiquement suivies. Pendant un mois et demi de blocage par les rebelles, le gouvernement a donc procédé à la rouverture mi-février dernier. Les forces russes et les FACA escortent désormais des camions stationnés à la frontière centrafricano-camerounaise. C'est depuis deux mois consécutifs que la voie est libérée, permettant aux camions d'acheminer des marchandises. Mais pourquoi le problème n'en finit pas? Que fait le ministère des Transports? Que dit le ministère du Commerce? Quelle est la réaction de l'association des consommateurs face au prix exorbitant de certains produits et matériaux de construction? Bref, comment expliquer le laxisme du gouvernement face à la flambée des prix des produits de première nécessité? Que fait-il face au calvaire des consommateurs? Et pour en débattre, je reçois sur le plateau du studio B de Radio Ndikiluka, M. Janvier Ngawen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rapporteur général de l'Observatoire des études économiques et sociales et ancien coordinateur du guichet unique. Monsieur Paul Cresson Beninga, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole du groupe de travail de la société civile et docteur en sciences politiques. Et monsieur Sosten Guettel, bonjour.
Bonjour, monsieur Armando.
Colonel des douanes et président du Parti panafricain pour les libertés et le développement, membre de l'opposition démocratique. Je suis Armando Nguindi. Nous lançons le débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndikiluka.
Voilà, je rappelle très rapidement que nous avions tenté en vain d'avoir quelqu'un du ministère du Commerce sur le plateau avec nous, parce que c'est le ministère clé pour ce débat. Malheureusement, la personne qui a été désignée par les responsables pour prendre part à ce débat a désisté, a dit non, elle n'a pas le temps pour vraiment répondre à nos préoccupations. Donc, quelques tours avec nos débatteurs autour de cette table. Monsieur Ngawen, constatez-vous aussi la hausse des prix sur presque tous les produits de première nécessité en ce moment?
Je pense qu'on vous l'avait évoqué au départ, le constat lié à la poussée exponentielle des prix sur le marché de Bangui tant au niveau de nos régions se fait sentir. Et donc aujourd'hui, il est primordial pour nous de ne pas rester seulement au niveau de constat, mais c'est de voir dans quelle mesure, au cours de ce débat, proposer des pistes de solutions pour ajuster ce fléau qui tend à décimer un peu la vie sociale de nos consommateurs et de tous les Centrafricains.
Voilà, même question à vous, monsieur Paul Cresson Beninga. Est-ce que vous aussi vous constatez ces derniers temps la spéculation des prix sur les produits de première nécessité, par exemple, à Bangui?
Oui, bien évidemment, nous constatons la hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché et ça fait plus de deux ou trois mois que ça dure, c'est depuis le mois de décembre que cette situation perdure.
Et vous, monsieur Guettel?
Oui, bien sûr, lorsqu'on est père de famille, on est tout de suite alerté par les cris qui viennent de la ménagère. Nous avons effectivement constaté que le panier de la ménagère a été un peu divisé par deux, compte tenu de la flambée des prix, donc cela se ressent au niveau des ménages et donc c'est tout à fait normal que nous en soyons concernés et touchés.
Effectivement, je vous propose de suivre le reportage sur l'augmentation des prix des produits de première nécessité ou bien des denrées alimentaires ici à Bangui, signé Alexia Ngandi.
Malgré la reprise du trafic sur le corridor Bangui-Garo-Amboulaye depuis plus d'un mois, il n'y a pas de régression sur les prix des produits de première nécessité. D'ailleurs, certains prix ont encore connu une hausse. Au marché de Gobongo, dans le 8e arrondissement de Bangui, Yvan vend de l'huile en gros et détail.
Je vends un litre à 1000 francs CFA et un bidon d'huile de 20 litres à 24 750 francs CFA. Entre temps, j'achetais un bidon à 24 500 francs. Donc, je cherche qu'un bénéfice de 250 francs CFA.
Edith, qui vient acheter de l'huile, se plaint du prix.
Avant, nous achetions un litre d'huile à 750-800 francs CFA. Mais maintenant, cela coûte 1200 francs. C'est pourquoi pourquoi nous sollicitons le gouvernement ainsi que le ministère du Commerce de faire une descente pour voir la situation sur le terrain.
Les prix du sac de sel, de farine ou encore de sucre n'ont pas baissé. Benjamin, qui est commerçant des matériaux de construction, précise qu'il achète un sac de ciment à 12 500 francs pour le revendre à 13 000 francs CFA.
Avant, nous vendons à 9 000 francs. Par rapport aux gens qui nous ont livré là, il nous a donné à 12 500. C'est pourquoi nous augmentons à 13 000 francs.
Même les produits surgelés tels que poisson et poulet de chair sont difficiles à trouver dans les supermarchés. Pourquoi les prix des denrées alimentaires et produits de première nécessité n'ont pas baissé plus d'un mois après la réouverture du corridor Bangui-Garambulaï? Est-ce que le trafic est vraiment régulier sur ce corridor? Si oui, quels sont les produits qui sont acheminés en République centrafricaine? S'agit-il d'une spéculation pure et simple de la part des commerçants? À ces questions, les ministères des Transports et du Commerce n'ont pas encore répondu.
Voilà, très rapidement, vous avez écouté le reportage de Alexia Bandi sur Radio Ndekeluka, Monsieur Jean Vingawen. Rapidement, qu'est-ce qui est à l'origine, selon vous, de cette spéculation ou bien de la hausse des prix ces derniers temps?
Je pourrais vous dire que nous pouvons retenir en un mot qu'un prix n'est pas virtuel. Un prix n'est qu'une résultante de plusieurs charges. En écoutant le reportage, vous sentez très rapidement est-ce que sur la base de ces flux de transport, on constate qu'il y a l'arrivée des véhicules, mais est-ce que autant de ces véhicules sont des véhicules chargés des marchandises en tant que tels ou c'est rempli beaucoup plus des produits des humanitaires, des ONG, des autres, je ne sais pas, de la MINUSCA? Et parce qu'on voit tout un véhicule qui rentre, mais quelles sont les marchandises qui rentrent proprement dites? Autre aspect, c'est de dire que ce flambé des prix ou la spéculation tant entendue peut ne pas être justifiée parce qu'il y a un dispositif de contrôle qui en manque. Peut-être les gens qui en profitent de l'occasion d'absence de mécanisme de vérification et de contrôle de l'État peuvent à leur guise également opérer cette action. Mais à mon avis, il y a d'autres facteurs que nous devons mettre en évidence. C'est autant de ces charges qui sont liées à l'approvisionnement de ces produits. C'est bien qu'on devait importer le produit, mais supposons que vous payez des taxes au niveau de la douane, au niveau du commerce, au niveau des autres services de l'État, du coup, en tant qu'opérateur économique, vous êtes obligé d'impacter sur le prix. Et donc, il y a plusieurs autres facteurs qui sont à l'origine, non seulement de l'acquisition, de l'approvisionnement de ce produit, mais au niveau interne pour apporter ces produits au niveau des consommateurs, au niveau du marché. Les dispositifs d'approvisionnement et les dispositifs de distribution de ces produits doivent vraiment faire l'objet beaucoup plus d'un mécanisme de contrôle sérieux.
Voilà, contrôle de la part de qui? Du ministère du Commerce. Évidemment, je retourne vers vous, monsieur Guettel Dilam-Koro. Rapidement, avec ce que nous connaissons sur le terrain, la spéculation, oui, mais aussi, est-ce que les commerçants ont raison? Parce que la situation sécuritaire sur la grande voie, Bangui, Beloko, Kiravita et Bangui, peut être justifiée à ce niveau.
Merci, monsieur Armando. Je voudrais, à la suite du compatriote Jean-Vien Gawen, qui disait tout à l'heure qu'à l'issue de ce débat, qu'on puisse avoir des pistes de solutions pour pouvoir remédier à moyen ou long terme cette question de hausse des prix ou d'inflation lorsqu'il s'agit de hausse généralisée des prix. Je crois qu'il faut repartir aux fondamentaux, comme l'a dit M. Gawen tout à l'heure. Pour parler simple, le prix d'une marchandise est la résultante de deux facteurs. Comme nous l'avons appris depuis l'école primaire, c'est le prix de revient plus bénéfice. Pour parler simple. Lorsque vous agissez sur le premier facteur, prix de revient, il va de soi qu'il peut y avoir des fluctuations en hausse comme en baisse, si vraiment l'autorité de régulation le fait. Donc je pense que pendant ce débat, il ne faut pas qu'on puisse aborder cette question de hausse de prix comme si ça datait que le mois de décembre. Je vous donne un exemple simple. Il y a 20 ans, 30 ans, quand j'étais encore à l'université de Bangui, je payais ma bière à 175 francs. Aujourd'hui, la bière, 20 ans après, est à 1000 francs. Ça veut dire que si on calcule les pourcentages ou les taux d'inflation, c'est 2000-3000%. Il y a quelque chose qui ne marche pas au niveau de l'autorité de régulation des prix. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, il faut analyser d'abord les facteurs qui peuvent influer sur ce prix de revient pour un commerçant. Vous avez chez nous en Centrafrique les infrastructures routières. Pour parler des produits locaux, les infrastructures routières sont dans un état de dégradation très très avancé. Il y a quelques années de cela, si je quitte ma ville de Paoua, pour Bangui, j'en ai pour moins de 24 heures. Aujourd'hui, il faut une semaine pour parcourir la même distance. Lorsque le commerçant qui prend son sac de 1000 à Paris pour amener à Bangui. Passe une semaine, il va de soi que les coûts vont augmenter. Rien que la prise en charge du commerçant lui-même. Parce qu'au lieu de faire un jour, vous faites une semaine, ça, il faut manger, il faut dormir, tout ça là. Donc, la question des infrastructures routières joue un rôle très très important sur les prix de revient des commerçants. Vous avez ensuite les obstacles tarifaires et non tarifaires. Ce sont les barrières que nous trouvons tout au long du cheminement des marchandises. Vous parlez toujours des produits locaux, puisqu'aujourd'hui, la flambée des prix ne concerne pas seulement les produits importés. Nous avons le manioc qui a augmenté, nous avons l'arachide qui a augmenté, et ça augmente chaque année, on ne comprend pas pourquoi. Aujourd'hui, un sac d'arachide, je crois, c'est à 40 000 francs. Pour un pays qui a une dotation naturelle pour pouvoir produire en abondance, il y a un problème qui devrait interpeller les ministères en charge. Pourquoi cela? Si aujourd'hui l'agriculture est en train de faillir, c'est parce que les conditions sécuritaires ne sont pas réunies. L'insécurité ne date pas seulement de décembre non plus. C'est des phénomènes antérieurs à décembre. Et donc il faut les examiner à fond pour pouvoir trouver un palliatif pour permettre à ce que le gouvernement, avec les techniciens, puissent aller dans le bon sens.
Voilà. Et ce palliatif avec vous, sur ce plateau, nous allons essayer de pouvoir proposer à ceux qui veulent écouter et puis prendre pour vraiment pallier ce problème. Effectivement, monsieur Paul Cressan Beninga, il y a aussi l'aspect de l'insécurité, mais on parle tout à l'heure de la dégradation avancée des routes qui joue également sur la hausse des prix comme l'un des facteurs.
Merci Armando. Je voudrais d'entrée de jeu saluer la pertinence du thème de ce débat. Nous avons l'habitude généralement de débattre des sujets qui sont éminemment politiques. Aujourd'hui, nous avons un sujet qui relève à la fois du politique et du social. Et nous parlons du vécu et du quotidien des Centrafricains. Et c'est un sujet extrêmement important de mon point de vue. Oui, je souscris entièrement à ce que mes dévanciers dans la prise de parole ont dit ici et ont relevé parce qu'il y a plusieurs facteurs qui participent de l'explication de ce que nous décrions aujourd'hui, la flambée des prix des denrées alimentaires sur le marché. La question des tracasseries liées aux approvisionnements a été soulevée. La question de la dégradation des voies de communication, notamment les voies routières, a été également relevée. Mais je voudrais, si vous me permettez, de mettre davantage une action sur la question de la régulation. C'est vrai que même si les tracasseries liées à l'approvisionnement expliquent en partie la flambée des prix, même si l'état des routes fait en sorte que les commerçants qui, au lieu de passer 48 heures en termes de chaîne d'approvisionnement, sont obligés parfois de passer une, deux, trois semaines.
Et ça, c'est avant le cas de récemment avec l'insécurité.
Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Ce qui fait en sorte que même les frais de séjour ont été calculés pour pouvoir influencer le prix de vente. Mais je voudrais dire ici que lorsque on a un organe de régulation et qu'on a également un organe de plaidoyer, cela peut amener à ce qu'on puisse retrouver l'équilibre. C'est pourquoi je regrette que nous n'ayons pas autour de cette table non seulement ceux qui viennent du ministère de commerce, mais aussi et surtout le représentant de l'association des consommateurs. Parce que la régulation, parfois, peut être impliquée par une dynamique de plaidoyer. Et l'organisation la mieux indiquée de mon point de vue pour faire ce travail, c'est l'association des consommateurs. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Voyez-vous, quand je parle de la régulation, parfois les pénuries sont créées à dessein par des commerçants, qu'ils soient de fait ou de droit. Et dans ce pays, nous assistons régulièrement à ce genre de mécanisme. Je vous donne un exemple simple. En décembre-janvier, nous comprenons qu'il y a eu un blocus au niveau de Garamboulaye. Les marchandises ne circulent quasiment pas. À un moment donné, on assiste à une levée progressive de ce blocus. Je dis levée progressive, pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, en termes de flux de transport, il y a quand même quelques couacs parce que sans les escortes, sans les convois, les marchandises ne peuvent pas librement circuler. Ce qui fait en sorte qu'en termes de quantité, on ne peut pas avoir les quantités qu'on avait avant décembre parce qu'il faut attendre les convois, il faut une dynamique d'escorte, de sécurisation de ces marchandises. Ce qui fait en sorte que les transporteurs qui ont l'habitude de sortir de ces convois ne peuvent pas circuler librement. De deux choses l'une, soit ils acceptent de subir, passez-moi l'expression, subir les convois avec les escortes, soit ils se disent on attend à ce que la circulation puisse répondre normalement, voilà, pour pouvoir effectivement exercer. Ce qui fait en sorte que les marchandises qui entrent à Bangui, en termes de quantité, c'est vrai, comparé à ce qui se faisait avant décembre, il y a de quoi à émettre quelques regrets. Mais ça ne doit pas justifier cette hausse de prix. Parfois, certaines denrées, les prix ont doublé. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que ceux qui vont, qui réussissent à aller à Douala, à Garamboulaye, s'approvisionner et reviennent vendre, font de la spéculation. Et c'est en ce moment-là que le ministère en charge du commerce et l'association des consommateurs doivent entrer en jeu pour faire un plaidoyer, notamment l'association des consommateurs et le ministère plutôt réguler les prix pour éviter ces hausses-là. Donc, il y a une sorte de défaillance au niveau du ministère du commerce, d'une part, et une forme de démission, passez-moi l'expression, au niveau de l'association des consommateurs. Et lorsqu'on réunit ces facteurs-là, c'est le centrafricain lambda, le consommateur, qui subit en réalité ce qui se passe. Je finis par là.
Rapidement.
Oui, je finis par là. Vous allez voir, par exemple, que même si, en termes de certaines denrées alimentaires, savon et autres, on peut dire qu'effectivement, en termes de ravitaillement, ça pose problème. Mais regardez, par exemple, dans le domaine de la boulangerie. Les farines entrent régulièrement parce que la plupart des boulangers sont des importateurs de farine. En décembre, janvier, la quantité du pain, n'est-ce pas, a été fortement réduite. Lorsque la circulation a repris, beaucoup de boulangers n'ont pas trouvé nécessaire de reprendre normalement leur activité. On continue à maintenir la quantité qu'ils produisaient à l'époque où il y a pénurie. Alors, quand on est en face de cette situation, comment réagir? Qui doit réagir? Nous avons le ministère de commerce qui est censé vérifier non seulement la quantité et la qualité, mais aussi le prix, mais aussi l'association des consommateurs. Faire un plaidoyer pour que les gens reviennent à ce qu'ils ont l'habitude de produire.
Et oui, très rapidement, si ça vous va bien, Monsieur Guettel Dilamkoro, rapidement hein, sur cette question de contrôle. Est-ce qu'il y a une sorte de complicité à ce niveau, au niveau du ministère du Commerce et certains consommateurs, enfin, et certains commerçants à ce niveau, parce que c'est le ministère qui devrait contrôler, qui devrait réguler. Et je rappelle qu'il y a un arrêté hein, qui date de 2008, hein, signé du président de l'époque, décret numéro 08.204, qui permet, afin qu'on puisse contrôler certains produits de première nécessité. Est-ce qu'on fait vraiment son travail à ce niveau?
Merci, monsieur le journaliste. Merci aussi aux compatriotes de Beninga pour avoir intégré dans son raisonnement la question de la spéculation au niveau des commerçants grossistes de la place. Il faut d'abord distinguer deux types de spéculation. Nous avons une spéculation qui s'exerce sur, comme l'a dit tout à l'heure Beninga, les pénuries provoquées. Et ça, nous avons des commerçants de la place qui sont champions en la matière. C'est-à-dire que lorsqu'une situation intervient, ils peuvent déplacer leur stock à un endroit inconnu pour fuir la vigilance du ministère du Commerce et des organes habilités. Et ensuite, au bout d'un certain temps, ils renvoient ces trucs-là en disant que finalement, ils doivent augmenter les prix.
Et provoquer...
Ça, c'est un manque de vigilance de la part des autorités de tutelle. Ensuite, vous avez des prétextes et des mensonges. Comme tout à l'heure, j'ai entendu dire les droits de douane. Vous savez qu'en Centrafrique, comme vous l'avez su bien l'indiquer ici, je ne suis pas là pour représenter la douane, mais je suis quand même de la profession. Je peux quand même en parler à titre illustratif. Je crois que certains nombres de produits stratégiques ont été défiscalisés depuis 20 ans, sans qu'on puisse constater sur le terrain la réalité de la baisse des prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les importateurs, les grossistes, disent qu'il faudra que la douane fasse des aménagements au niveau de ces tarifs. Et quelquefois, nous passons outre les intérêts du trésor pour pouvoir défiscaliser certains produits. Il en est de même pour la farine, pour le sucre qui devait être produit par SUCAF et qui aujourd'hui ne remplit pas les conditions, personne n'en parle aussi, hein, et qui finalement rentre par des chemins détournés des marchés voisins. Donc vous avez ce type de pénurie-là qui sont provoquées par les grossistes de la place. Est-ce qu'il y a complicité des organes de...
Mais si c'est provoqué parce qu'il y a un organe de contrôle hein, au ministère du Commerce qui devrait jouer son rôle.
Justement, je vais en arriver à la conclusion. Parce que le deuxième truc, c'est les mensonges des commerçants. Lorsque les commerçants viennent vous leur demander, c'est souvent ce qui se dit, hein, c'est parce que la douane a beaucoup frappé, c'est pour ça qu'on a fait ceci, qu'on a fait cela. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais récemment, 2014, directeur régional de Mambéry Kadéi, Berberati. Lors de ma première tournée à Nola, je suis tombé sur un kiosque d'un enfant qui vendait les clés USB. Et lorsque je me suis intéressé, parce que je voulais acheter pour recopier les musiques qui étaient dans mon ordinateur pour écouter dans la voiture, je suis arrivé, j'ai demandé à ce jeune le prix de la clé USB, il me parle de 15 000. J'ai dit, mais petit.
Combien de gigas?
2 gigas, 4 gigas. 15 000. J'ai dit, mais pourquoi? Et il dit, non, mais il y a un nouveau directeur qui est arrivé à Berberati, là, qui a mis vraiment de nouveaux trucs en place. Donc maintenant, le prix de la douane a augmenté. Et c'est pour
c'est
ça que. Et il n'a pas su que c'est le directeur qui était en face de lui. Et même le véhicule de la douane qui était là, comme il était illettré, il ne faut pas dire que c'est la douane qui est là. Mais il m'a répondu que c'est le nouveau directeur là qui a fait que les prix ont augmenté. J'ai dit, bon, d'accord, c'est le directeur dont tu parles, c'est bien moi. Alors, sors-moi tes quittances que tu as payées au niveau de la frontière. Capable de sortir. Voilà des cas de mensonges qui sont dits au niveau de la douane. Je pense que pour ces produits stratégiques, il y a cet aspect, mais il y a l'autre aspect aussi, je passe sous le contrôle de mon compatriote Ngawen, qui est un ancien du commerce, je crois qu'il y a ce qu'on appelle les stocks de sécurité. Je pense que ce sont des obligations qui sont faites à ces grossistes-là, les stocks de sécurité. Chez nous, la fermeture du corridor de Beloko n'a pas duré 3 mois.
Non.
Mais ces grossistes avaient l'obligation d'avoir des stocks pour 6 mois. C'est en réponse à ça que l'État leur donne des allègements, des facilités d'importation, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on les appelle les entreprises
citoyennes,
opérateurs économiques et agréées pour nous en douane, tout et tout. Donc c'est comme ça. Mais maintenant, qui doit contrôler ces...
Et c'est cette question qui doit contrôler rapidement, monsieur Jervin Gawen. Je vois que vous voulez prendre la parole.
Je pense que tous les éléments sont élucidés plus ou moins. Que constate très amèrement la faiblesse de l'institution en question. Vous avez dit, est-ce qu'il y a complicité entre les commerçants et les éléments du ministère en charge de commerce? Je dis, il y a la méconnaissance également des mécanismes de contrôle. Parce que ça ne sert à rien de dire on va aller contrôler, mais on va contrôler quoi? Est-ce qu'on a des moyens pour le contrôle? Comme on le dit ici, est-ce que pour chaque entreprise, on a une capacité à apprécier les stocks de sécurité de chaque entreprise? Est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui de connaître au moins des véhicules en destination de la RCA, quelle est la quantité d'approvisionnement réel? Je pense qu'il y a un travail à faire d'une manière technique pour que nous arrivions. Sur les prix, je pense qu'il y a un mécanisme qui est mis en place au niveau du ministère en charge de commerce, c'est un comité en charge d'homologation des prix. Normalement, un prix n'est pas virtuel, comme on l'a dit. Dès que vous importez un produit, ce comité doit siéger, prendre en compte l'ensemble des charges établies dans le processus d'approvisionnement de ce produit et arrêter un prix qui est un prix conseillé sur lequel nous devons affiler un contrôle strict. Mais cela se pose réellement au niveau de ce mécanisme de contrôle, au niveau de ces techniciens qui doivent contrôler effectivement cette variation de prix. Et donc, pour moi, je pense que tous ces produits de première nécessité nécessitent d'être contrôlés, mais les services en tant que tels n'ont pas tous les moyens possibles.
Vous avez parlé des moyens techniques,
aujourd'hui, je prends les moyens. Voilà. Vous prenez un agent de commerce qui va aller faire un contrôle dans un magasin, mais il vient totalement souillé, il avance. Il arrive déjà devant le commerçant avec toute une situation de peine pénible, mentalement définie. Je pense que l'établissement de la corruption est déjà là. Il ne va plus faire l'exercice de contrôler, mais il va seulement s'atteler à vérifier d'une autre manière et si on peut lui faciliter le transport. D'abord, c'est que les techniciens peuvent être là définis à le faire, mais s'ils n'ont pas tous les moyens adéquats pour essayer de vérifier tous ces mécanismes-là, ça va être difficile. Je peux vous dire sur le plan des stocks de sécurité, ça c'est la loi régissant le code de commerce qui établit au moins tous ces dispositifs, mais simplement, le ministère ne s'assume pas beaucoup plus à ce niveau. C'est une chose, c'est de dire que la loi est là, mais autre chose, c'est de chercher à appliquer ces dispositions liées à la loi. Mais je vous dirais également, cette inflation ou cette question de flambée des prix, il y a un facteur lié au transport. Je pense que mes compatriotes l'ont dit tout à l'heure. Je prends un exemple. Si je ne me trompe pas, peut-être l'arrêté n'a pas été encore modifié, mais déjà en termes de tarification de transport, pour les produits de première nécessité, je pense qu'à l'époque, il y a un arrêté qui est signé entre le ministre en charge de commerce, le ministre en charge de transport, etc., pour fixer les tarifs de transport des produits de première nécessité. On me dit, pour transporter une tonne de Bangui à Douala, il vous faut 106 000 francs. Ça veut dire que si vous prenez une tonne de ciment, ça nous fait 20 sacs. Si je rapporte avec les 20 sacs, il me faut en plus ou moins 5 300 francs pour payer un sac de ciment. Alors qu'à 5 300 frais de transport, on dépasse déjà le prix d'achat au port de Douala. Ce facteur peut impacter également sur le transport. C'est pourquoi, arrivé un moment, on se dit, à travers le groupement des transporteurs centrafricains, si l'État pouvait alléger cette situation pour que certains nombres de ces produits-là soient transportés à moindre coût.
Donc, il y a... Et comme ça, ça va impacter sur les consommateurs.
Très rapidement, et je pense que le commerçant va associer le prix d'achat plus les frais de transport, y compris les droits de douane et autres taxes, et du coup, ce prix risque d'être à la hausse. Simplement, même si on est arrivé à un certain nombre de niveaux à déterminer le prix, mais c'est les mécanismes de contrôle de ces prix qui semblent ne pas être plus ou moins efficaces à mon niveau.
Voilà, comme vous avez déjà abordé cette question des matériaux de construction, je vous propose de suivre le reportage sur la hausse des prix des matériaux de construction avec Igor Jeskin-Sinapay.
À 13h, nous sommes ici au barque sous un soleil ardent. Tous les dépôts de ciment sont vides. Pas comme Toufeina, commerçant qui se trouve à l'entrée, dispose d'au moins 6 derniers sacs de ciment dans son entrepôt. Il explique le circuit du ravitaillement de ces derniers temps.
Les Russes n'amènent que presque 10 véhicules. Parfois, il n'y a même pas de marchandises. Les chauffeurs en profitent pour faire des spéculations et nous sommes obligés d'ajouter le prix de vente pour se faire de bénéfices.
Répondant à la question de spéculation, Pacom Toufeina rejette en bloc la responsabilité sur les agents de la douane qui, selon lui, sont à l'origine de la hausse des prix.
On achète le ciment à 11 500 francs. On paye aussi la taxe douanière. Les douaniers en région haussent les taxes car ils disent que le ciment est vendu à 13 000 francs. Nous achetons l'unité du sac de ciment à 11 500 francs. Nous payons les taxes de la douane, l'impôt et le transport, ce qui nous permet de revendre à 13 000 francs. Ce que les douaniers ont dit, c'est du pur mensonge.
À la direction générale des douanes, l'on fait savoir que les taxes douanières sur les différents produits, notamment le ciment, n'ont pas été revues à la hausse. Dieudonné Koyambo, directeur général adjoint, incombe la responsabilité aux revendeurs.
Nos importations ont baissé au moins de tiers. Et vous savez que lorsqu'il y a rareté des produits, les spéculations surgissent. Je crois que c'est là la question. Ce n'est pas qu'au niveau de la douane, nous avons augmenté les droits et taxes. Non, ça, c'est faux.
Une autre raison à l'origine de cette crise, c'est la réduction du nombre de véhicules qui desservent le corridor. Très peu de véhicules acheminent de marchandises vers la RCA, ce qui fait que la demande est supérieure à l'offre.
Avant ces crises-là, le flux était assez important parce qu'en moyenne, on recevait 3 convois de 50 camions à l'époque. Ce qui fait qu'au bout du mois, on peut se retrouver avec 400 à 500 camions à traiter. Après les crises, maintenant avec l'ouverture du corridor, nous ne recevons que 2 convois ou 3 convois de 15 camions. Vous voyez, dans le mois, on peut se retrouver avec moins de 100 véhicules. Vous voyez, ce qui explique tous ces problèmes que vous avez soulevés.
Depuis le déclenchement de la dernière crise sécuritaire en Centrafrique, les prix des produits ont connu une augmentation. Les Centrafricains accusent le ministère du Commerce qui, selon eux, ne fait pas son travail pour faire respecter l'homologation des prix sur le marché.
Voilà, c'était donc Georges Kansinapa sur Radio Ndeke Luka et dans le débat politique de ce média numéro 1, République Centrafricaine. Vous l'avez déjà mentionné, M. Paul Christian Bininga, qu'il y a un problème de contrôle qui devait être effectué au sein du ministère du Commerce, mais malheureusement, comme je l'avais déjà dit, à l'entame de cette émission, nous avions invité quelqu'un du ministère du Commerce. Malheureusement, la personne ne s'est pas rendue disponible pour vraiment répondre à toutes nos préoccupations. Mais vous avez écouté ce reportage. Qu'est-ce que vous avez retenu, M. Paul Christian Bininga?
Je retiens deux choses. La première, c'est que le prix d'achat n'a pas changé. C'est-à-dire, lorsqu'on se rend à Douala ou à Garamoulaï pour acheter les produits de première nécessité, le prix de ces produits n'a pas changé. Deuxième chose que je retiens, c'est ce jeu de ping-pong entre les acteurs concernés. La douane, le ministère de commerce, les transporteurs, les commerçants, les revendeurs. Personne n'est responsable de ce qui se passe. On accuse l'autre. Et ça témoigne en réalité de ce que le travail qui doit être fait au niveau de ces institutions n'est pas prise au sérieux. J'ai suivi mon cher frère Ngawen ici, qui a relevé avec beaucoup d'euphémisme les faiblesses du ministère du Commerce. Mais en réalité, on peut aller plus loin. Vous savez, dans ce qui se passe dans ce pays, lorsqu'on décide de mettre en place parfois les structures, notamment le gouvernement, et qu'on procède au partage, si vous voulez, des départements, sans pour autant qu'on se rende compte, on confie certains départements à certaines personnes qui ne sont pas à la hauteur. C'est ce qui se passe au niveau du ministère de Commerce, entre autres. Et même lorsque vous échangez avec les fonctionnaires au sein de ces départements, ils se plaignent du fait...
Et donc vous voulez parler de l'incompétence.
Justement, ils se plaignent du fait effectivement que les ministres qu'on envoie là-bas très souvent ne sont pas compétents. Par exemple, celui qui vient d'être relevé, quand vous posez la question, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais lorsque vous échangez avec les fonctionnaires de ce ministère, il se plaint de son incompétence. Aujourd'hui, il a été remplacé par un intérimaire qui est celui de la finance. Nous osons croire qu'il fera quand même de son mieux.
Mais déjà, certains, sans autant vous couper, M. Christian Bininga, mais les techniciens aussi qui sont...
J'en viens, effectivement. Maintenant, au niveau, parfois nous avons des techniciens qui sont compétents, mais qui sont pris au piège de la politique. Je m'explique. Celui qui a été désigné par le directeur de cabinet qui a refusé. Mais ce n'est pas la première fois. Autour de ce débat, un technicien du ministère des Affaires étrangères a été désigné. Il a refusé parce qu'il estime que c'est un sujet sensible et que, étant fonctionnel, lorsqu'il se prononce là-dessus, il va perdre son poste. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Et donc, peut-être il aura la pression du MCU, il aura la pression de son ministre intérimaire, il aura la pression du patron de la République. Et à partir de ce moment, il n'a pas... Et donc, les fonctionnaires doivent comprendre qu'ils ne doivent rien à ces partis politiques-là. Même si ces partis politiques sont au pouvoir, ils sont fonctionnaires de la République. Autant faire normalement son travail et sanctionner pour avoir bien fait son travail que de ne pas faire son travail et faire dans la complaisance. C'est de ça en réalité qu'il s'agit. Et donc, nous sommes en face d'une situation qui est compliquée. Et je vous disais tout à l'heure que l'association des consommateurs a un rôle extrêmement sensible à jouer. Pourquoi je le dis ? Si l'association des consommateurs a fait un travail de fond, ce jeu de ping-pong qu'on observe entre les acteurs n'aura pas lieu. La douane va dire exactement ce qu'il en est. Les transporteurs doivent dire exactement ce qu'il en est. Vous voyez que les transporteurs, notamment les chauffeurs, sont devenus des commerçants de fait. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, ce sont les commerçants qui revendent les sacs de ciment à ceux qui vendent les ciments devant le bar? Et même la question des impôts, il faut qu'on en parle. Qu'est-ce qu'on observe? Un commerçant, au début de l'année, comme c'est un régime de déclaration, lorsque vous allez déclarer votre chiffre d'affaires, vous payez les impôts. À partir de ce moment, lorsque vous importez, vous n'avez qu'à brandir votre patente. Et vous n'avez pas à verser les impôts. Et il faut sensibiliser les Centrafricains de ce point de vue-là. Mais ça arrange aussi les affaires des fonctionnaires des impôts. Lorsque le commerçant, qui est manifestement un commerçant de fait, ne déclare pas ses chiffres d'affaires au début de l'année, qu'est-ce qu'on observe ? Il importe, il vient, il négocie à la tête du client.
Et c'est la persécuté.
Et bien évidemment, non, ça arrange ses affaires. Mais ce qu'il ne sait pas, ce commerçant de fait, c'est que s'il fait les totaux de ce qu'il verse aux impôts,
au fur et à mesure,
à la fin de l'année, il aurait pu verser ses infos au début de l'année, avoir ses patentes. Donc vous voyez, nous sommes dans une affaire qui est compliquée. Nous faisons ce que le sociologue aujourd'hui avec Claude Abbé appelle la gesticulation institutionnelle. Les institutions donnent l'impression de fonctionner, mais en réalité, elles font du surplace, ça ne fonctionne pas du tout. Et donc nous devons effectivement dénoncer cela.
Il faut dénoncer rapidement, M. Guettel, Dilam Koro, hein, sur cet aspect. Vous avez compris, ce n'est plus la question des produits de première nécessité, mais nous allons vers tous les produits, des marchandises, les matériaux de construction. Qu'est-ce qui doit être fait pour vraiment mettre fin à cette pratique? Parce que ceux qui en font les frais, ce sont les populations.
Je vous remercie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avant que le reportage soit remis sur la table, j'ai donné l'exemple de Nola. Votre reporter aurait pu demander à ce jeune-là de lui brandir la quittance de paiement qu'il a acquittée au niveau de la douane. Ils vont le dire, mais ils ne vont jamais vous fournir, parce que nous connaissons la réalité du terrain. C'est bien vrai que le niveau de compétence de nos jeunes frères laisse à désirer maintenant, compte tenu des modes de recrutement dans les départements sensibles des finances. Ça fait que ces jeunes qui sont là, effectivement, ne viennent pas pour le trésor public. Et ça pose des problèmes comme ça, des accusations graves qui sont portées contre l'institution. Mais en réalité, il n'y a aucune trace de paiement sur les quittances de l'État. C'est-à-dire que c'est des arrangements. Et comme ces arrangements-là profitent à ces détaillants, ils préfèrent le faire. Comme c'est des arrangements. Et donc, c'est un problème qui est global, qui est généralisé. Et lorsqu'au cours d'un débat, nous le soulevons, c'est pour en appeler également aux institutionnels de la République pour pouvoir essayer de revoir ces questions-là, pour pouvoir doter nos administrations des compétences, des intégrités et des gens qui veulent vraiment faire changer les choses. Parce que, je le dis en connaissance de cause, pour avoir dirigé des hommes dans cette institution, je sais que les gens ont horreur lorsque vous leur parlez de travailler pour l'État. Et ça, c'est un phénomène qui est réel. Et donc, comme je l'ai dit, je ne suis pas venu ici recommandé par la douane, je ne voulais pas aller au-delà.
Mais déjà dans ce reportage, le directeur général adjoint de la douane a démenti.
Il a donné son... Oui, mais ça va dans le même sens que je dis. Ça va dans le même sens. Les gens viennent faire des arrangements avec des agents qui leur lèvent la barrière, ils passent avec leur ciment, ils vont là-bas et puis ils viennent dire qu'on a payé d'énormes sommes d'argent à la douane alors qu'au fond, quand vous allez leur demander quelles sont les preuves des paiements, il n'y en a pas. Donc je pense que c'est un débat qui doit nous interpeller tous pour qu'on puisse chercher à revoir encore au niveau de nos frontières comment ça fonctionne. Parce que lorsqu'on accuse l'institution, la preuve aujourd'hui, ce n'est pas l'agent du PK26 qui a répondu, c'est le DG des douanes qui a interpellé. Et donc aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau du PK26. Interpeller ce commerçant-là pour demander, mais à qui tu as donné ton argent? Et ensuite, qu'il y ait des sanctions. Parce qu'aujourd'hui aussi, tout le gros problème de notre pays, c'est l'impunité. Hein, aujourd'hui, les gens font ce qu'ils veulent et on ne sont pas touchés. Donc je crois que... Au cours de ces interpellations-là, je crois que les institutionnels de la République doivent se mobiliser pour trouver des solutions, hein, pour pouvoir mettre un terme à ces...
Monsieur Paul-Christian Beninga, vous voulez réagir rapidement comme ça on
avance. Oui, il y a un aspect que j'ai oublié, c'est l'intervention de Monsieur Guettel qui m'a fait rappeler cela. C'est la question également de certaines pratiques au niveau des commerçants. Voyez-vous par exemple que Il faut le dire. Notre commerce, l'activité commerciale en République centrafricaine est prise en otage en partie par les Libanais, voilà, les Syriens et bien d'autres personnalités venues d'ailleurs. Et quand vous voyez comment il faut, on a parlé de la création des pénuries. En fait, on crée des pénuries de façon fictive pour faire la spéculation des prix. Mais on est en train de créer également des pénuries en termes du tri qu'on opère depuis Garamboulaï pour faire acheminer les produits. Quelqu'un l'a dit ici. On voit entrer 15-20 véhicules, pensant que ces véhicules-là transportent des marchandises qui pourraient desservir toute la population. Mais ces véhicules-là appartiennent très souvent à certaines catégories de commerçants et ceux-là vont faire de la spéculation. C'est extrêmement important. C'est pourquoi je dis le prix d'achat n'a pas connu une modification, mais toute la chaîne d'approvisionnement a été prise en otage par certains commerçants véreux. Et à partir de ce moment, pour résoudre le problème, il faut répartir des plus.
Oui, M. Gawen, le commerce est faiblement pratiqué par les Centrafricains, comme en a mentionné Paul Cressan Biniga, ou du moins son compte au bout du doigt, les opérateurs économiques locaux. C'est quoi le vrai problème aujourd'hui?
Bon, je pourrais vous dire que sur le plan des activités commerciales, on ne décaisse jamais un opérateur économique. Pour qu'on ait suffisamment de Centrafricains dans ce système, nous devons avoir plus de motivation individuelle. C'est bien qu'on ait aujourd'hui que le commerce centrafricain est occupé totalement par les étrangers, mais nous devons faire de nos mieux également pour intégrer ce dispositif. Simplement, je pense que mon frère Benigala dit tout à l'heure, ceux qui sont déjà sur le terrain, ceux qui exercent actuellement l'activité commerciale en RCA, ont plus de capacité à cerner toutes nos institutions. Et lorsque tu es centrafricain, je ne sais pas, que tu viens t'insérer dans le dispositif, tu peux être combattu par tes frères même, qui sont dans un certain nombre d'administrations, parce qu'ils sont en connivence, ils sont en relation parfaite déjà avec ces opérateurs, soit des Libanais ou des Syriens, qui ont plus les facilités de leur accorder les avantages du jour. Alors que toi, tu peux avoir la possibilité de retenir que le règlement des textes se définit tel, mais tu vas respecter toutes les conditionnalités. Mais étant donné que l'arrangement ne viendra pas de ta part, tu pourrais être combattu du début jusqu'à la fin. Et donc pour moi, il revient maintenant à nous, Centrafricains, comme dans les autres pays de la sous-région, comme au Cameroun, de chercher vraiment par tous les moyens possibles à s'insérer dans ce dispositif des activités commerciales pour vraiment sauter le verrou de cette dépendance, de cette capacité d'opacité de nos opérateurs véreux, soit les Libanais en
termes. Monsieur Pocressan Beninga, mais déjà le problème se pose. Hein. Est-ce que c'est un danger à l'avenir pour la République centrafricaine si aujourd'hui les propres Centrafricains ne s'intéressent pas beaucoup plus dans ce domaine du commerce? Est-ce que c'est aussi tout cela qui fait aujourd'hui le malheur de tout ce que nous avons évoqué au cours de ce débat?
Non, Armando, je ne suis pas pessimiste. Je suis plutôt optimiste en ce qui concerne cette affaire. Et je vais vous dire pourquoi.
Oui, pourquoi?
J'ai fait une analyse à l'issue de laquelle je suis arrivé à la conclusion selon laquelle après 5 ans, prenez date de ce que je dis, 5 ou 10 ans, le paysage commercial va connaître une reconfiguration en termes d'acteurs. Vous savez, l'un des aspects positifs de cette crise que nous avons connue, c'est la reconfiguration du paysage économique. Voyez-vous, rendez-vous à Gobongo, allez à Combattant, vous allez voir que l'activité ou les activités commerciales aujourd'hui sont portées par les fils et les filles de ce pays. Les gens ont compris que nous ne pouvons plus dépendre du kilomètre 5. Les gens ont compris que nous ne pouvons pas continuer à dépendre des Libanais et des Syriens. Et les jeunes Centrafricains ont pris en main leur responsabilité. Ça, c'est à encourager. Mais il y a encore beaucoup de barrières. Et c'est là où je rejoins Janvier lorsqu'il évoque ces barrières-là. Au niveau de nos institutions, la pression fiscale est énorme. Vous savez, dans certains pays, c'est vrai que nous sommes un état fiscalo-douanier au point que nous sommes obligés, effectivement, de veiller à ce que la politique fiscale soit appliquée. Mais il faut alléger également cette pression fiscale pour les jeunes entrepreneurs. Dans certains pays, parfois, on allège même jusqu'à 3 ans. Et on accompagne, on allège, on ne laisse pas les gens faire. On allège, mais on accompagne avec des institutions qui permettent d'encadrer ces jeunes entrepreneurs pour qu'ils puissent émerger. Quitte à ce que même l'État puisse récupérer les 3 ans de cette pression fiscale-là qu'on a allégée bien après. Ça, c'est un exemple. Deuxièmement, vous allez voir également qu'il y a une forme de préférence qui malheureusement n'est pas nationale dans la manière de faire de nos institutions, mais aussi de ceux qui sont responsables de ces institutions-là. Voyez la proximité qui existe aujourd'hui entre nos institutions et ces Libanais et ces Syriens. Je n'ai rien contre eux, mais ces proximités, ces facilités qu'on donne, par exemple, à ces commerçants-là, les Centrafricains qui sont des entrepreneurs, qui sont des commerçants, ne jouissent pas de cette proximité-là. Je vous donne un exemple simple et je pense que M. Guettel est mieux placé que moi. Regardez les facilités fiscales qu'on accorde, par exemple, à Ryan, pour ne citer que cette entreprise-là, ce supermarché. Au bout de chaque 5 ans, 10 ans, on craint l'incendie au niveau de ces supermarchés-là et ça profite effectivement à ces commerçants-là. On leur accorde parce qu'il y a certains chefs d'État, Bozé y compris, je ne sais pas ce qu'il en est de celui qui est aujourd'hui au pouvoir, mais Bozé y compris a été parfois actionnaire dans ces choses-là. Et à partir de ce moment, comment est-ce que vous pouvez effectivement exercer convenablement le travail qui revient à ces institutions-là? Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, ce sont les banques d'investissement. Il n'y en a pas. On ne peut pas encourager le commerce, l'activité commerciale dans un pays comme le nôtre sans pour autant qu'il y ait des banques d'investissement. Les banques qui sont aujourd'hui, ce sont des vendeurs d'argent, passez-moi l'expression. C'est des banques qui ne sont pas des banques, des banques commerciales, mais ce ne sont pas des banques d'investissement. Aujourd'hui, quand un commerçant veut faire un prêt dans une banque, il demande 10 millions, on lui demande une garantie avec un titre foncier de 15-20 millions. Mais s'il avait ce titre foncier...
C'est déjà un frein quelque part.
C'est un grand frein. Lorsqu'on lui demande, il veut un prêt de 10 millions, on lui demande de faire un DAT de 7-8 millions. Mais s'il a déjà 8 millions, pourquoi il va emprunter 10 millions pour faire des affaires? Autant commencer avec les 8 millions. Donc vous voyez, à partir de ce moment, le problème devient complexe. Donc le problème est à la fois institutionnel
et
politique. Et donc il faut mettre en place une politique d'investissement. Voilà. Il faut encourager les
investissements. Oui, le chef de l'État, dans son discours d'investiture, le 30 mars dernier, a mentionné la question de créer des conditions pour que le commerce et les entreprises émergent en République africaine. N'est-ce pas une bonne nouvelle, M. Guettel Dilam?
Merci bien, mais avant de revenir à votre question, je voudrais d'abord apporter ma contribution suite à ce que vient de dire M. Cressant Beninga à propos des compatriotes Boubangueri. Je pense que tel que c'est décrit, peut-être que vous ne maîtrisez pas bien ce milieu. En tant que praticien de la réglementation douanière, j'en sais un peu quelque chose. Je me souviens que c'est dans les années 95 que le gouvernement de l'époque a pris l'initiative de mettre en place le CAPMEIA, je crois, qui doit exister jusqu'à aujourd'hui.
Oui.
Ce CAPMEIA s'était donné pour but de regrouper ces jeunes Boubangueri. Je crois qu'on a même donné un local vers le PK4, avenue Boganda, pour qu'ils puissent se retrouver là, comme si une petite coopérative, un truc comme ça, et qu'ils puissent vraiment mettre en commun leurs ressources et pouvoir développer une classe d'hommes d'affaires centrafricains. Mais qu'est-ce qui se passe, vous savez? Le problème de notre pays, c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, là, ce sont ces Libanais. À l'époque, quand j'étais à la frontière, dans les années 90, quand j'ai pris fonction, j'avais reçu, le premier jour de ma prise de fonction, 50 véhicules. Et lorsque je leur ai expliqué les nouvelles modalités de taxation, ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas, qu'il fallait qu'on fasse des arrangements de nous.
À l'amiable.
À l'amiable. Mais lorsque j'ai insisté pour dire que c'est une décision qui vient de là-haut et que je n'ai pas le pouvoir de faire autrement que ça, mais sur les 40 véhicules, sur les 50 véhicules, 46 sont repartis sur Bangui. Vous allez me demander pourquoi. Mais ces fameux Boubangueri qui se tapaient la poitrine à l'époque n'étaient que des envoyés spéciaux de ces commerçants syriens et libanais.
Les intermédiaires.
C'est les intermédiaires qui utilisent le fait qu'ils soient des centrafricains et qui doivent profiter de mesures d'allègement liées à leur statut de national pour pouvoir exercer le commerce. Mais ils prennent cet attribut-là, ils monnaient à ces expatriés. De même qu'il y avait un moment, sous ce même régime, je crois qu'il vous souvient que tous les ministres étaient détenteurs de permis forestiers. Disons, c'est certains ministres qui avaient des forêts qui leur étaient allouées. Mais ils sont où aujourd'hui, ces ministres? Ces entreprises sont où?
Et où sont les forêts aussi?
Et où sont les forêts? Non, les forêts, c'est que les arbres ont été abattus. Mais ils sont allés monnayer ces titres forestiers-là avec des expatriés qui sont venus couper nos forêts et qui sont repartis. Une fois qu'ils ont perdu le pouvoir, c'est venu, ils ont disparu dans la nature aussi. Il n'y a pas eu de suivi.
Et donc, rapidement, pour vous comprendre, je reviens vers M. Ngawen avant de donner la parole à M. Oui. Paul Christian Beninga qui la sollicite. Très rapidement, ça prouve qu'il y a le problème interne et externe qui gangrène vraiment ce circuit en République centrafricaine. D'abord par les centrafricains eux-mêmes et les conditions, les dispositifs mis en place pour accompagner ce secteur, je parle du commerce.
Oui, je pense qu'il y a un problème d'organisation d'abord. Et ces institutions en charge d'accompagnement, à mon avis, existent comme le président l'a dit tout à l'heure. Le CAPMEIA est bien assigné, bien formulé pour essayer d'accompagner nos opérateurs économiques. Mais simplement, l'existence de cette institution nous relève beaucoup plus de difficultés.
C'est la fiction.
Aujourd'hui, via le CAPMEIA, les questions d'accompagnement, les questions d'entreprise, les questions de formulation et pourquoi pas l'accompagnement sur le plan financier avec un fonds national de garantie et d'investissement. C'est ce qui était déjà défini par l'État. Mais simplement, l'opérationnalisation de toutes ces actions semble encore être invisible.
Ça veut dire que l'institution existe, mais donner des moyens à cette institution d'exercer comme il se doit pose un certain nombre de problèmes.
Je pense que le problème est à ce niveau, mais il revient également à l'institution de s'appuyer sur les grands actes ailleurs pour essayer de relever les défis. Parce qu'il peut arriver qu'on attend que les moyens viennent de l'État, alors qu'aujourd'hui, pour accompagner le secteur privé, dans le cadre de l'amélioration des climats des affaires, on peut s'adresser à plusieurs partenaires techniques et financiers.
Pour votre information, si ça ne vous dérange pas, je vous dis simplement qu'à l'époque où je parlais, je pense que le gouvernement avait parrainé quelques bobanés qui étaient ou de centrafricains qui étaient identifiés. Je crois qu'au niveau des banques de la place, une ligne de crédit leur était ouverte. Je crois que chacun devait recevoir 50 millions à l'époque.
50 millions, mais
tous ces gens, quand vous le demandez, ils sont en France en ce moment.
Oui, 50 millions, mais comme a dit Paul Kessan Beniga tout à l'heure, il y a une question de suivi à ce niveau, monsieur Paul Kessan.
Oui, c'est pourquoi. Je ne sais pas s'il a terminé.
Oui, je pense que vous pouvez compléter, mais d'accord. Je pense sur le point du fonds de garantie.
Oui, monsieur. Oui.
C'est ce mécanisme qui est actuellement que nous devons faire un effort pour promouvoir. Mais il y a également un autre aspect, c'est l'organisation de nos opérateurs économiques eux-mêmes. L'exemple que le président a donné, je pense à l'époque, tous les magasins ou les boutiques qui ont été construits au niveau de Kilomètre 5, c'était pour les Boubangueri. Arrivé au Kilomètre 5 à la date d'aujourd'hui, les Boubangueri qui venaient de combattants, venaient de Boeing, etc., le gouvernement a fait de son mieux pour confier au moins ces magasins, mais aujourd'hui, tout est mis en location.
En location, même, ils ont déjà tout vendu. Rapidement, oui. Monsieur Pokessa Venga, vous avez une minute pour qu'on puisse boucler.
Tout à l'heure, je parlais de la gesticulation institutionnelle. Et je pense que l'exemple qui a été donné de part et d'autre illustre ce que je disais. Pourquoi ? Parce que il ne s'agit pas de créer une institution. Mais il faut que cette institution marche. Il ne faut pas que l'institution donne l'impression de marcher alors qu'elle est en train de faire du surplace. C'est ce qu'il en est, du Cap-Méa, des fonds et autres. Ça, c'est d'un. De deux, je pense qu'il faut être optimiste. Vous avez pris des exemples qui datent des années 90, mais aujourd'hui, la situation a changé. Je vous invite, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, à faire un tour au marché combattant, à Gobongo, marché Sango-Petevo. Vous allez voir que ces Boubangueri ne sont plus des relais des Libanais, mais sont devenus des commerçants de droit et des commerçants qui sont autonomes. Il y a une organisation, je ne veux pas citer deux banques.
Les propres entreprises, les petites entreprises.
Oui, je ne veux pas citer deux banques, mais même si je dis que ces banques sont des banques commerciales, mais il y en a au moins deux. Bon, une banque, je ne veux pas citer pour faire la publicité, et un crédit mutuel qui accompagne dans la mesure de leur capacité certains commerçants. Vous savez aujourd'hui que Gobongo est devenu pratiquement une zone autonome pour se procurer du pain, de l'huile, du sucre. Les habitants du Gobongo n'ont plus besoin de se rendre au kilomètre 5, encore moins au centre-ville. Et ce que les gens ne savent pas, on a parlé par exemple du stock de sécurité. Nos Libanais n'en ont plus. Mais si vous allez à Gobongo, à combattants, ils en ont. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les Libanais vont se procurer au kilomètre 5 pour venir revendre au centre-ville et à combattants, ainsi de suite. Les Libanais vont se procurer à combattants, à Gobongo. Risque. Et pour moi, c'est pourquoi je dis, je suis optimiste, je salue ces initiatives-là. Et il revient à l'État. Au travers de ces institutions, d'encadrer. De pouvoir encadrer ces secteurs-là. Nous sommes là dans une dynamique par le bas et il faut l'encourager.
Et c'est la fin de ce débat politique de Radio Ndeke Luka. Je rappelle que nous l'avions consacré aujourd'hui à la hausse des prix ou la spéculation des prix de produits de première nécessité et des marchandises en République centrafricaine. Nous avions reçu autour de cette table M. Paul Kessan Beniga. Il est porte-parole du groupe de travail de la société civile et docteur en sciences politiques. Merci pour votre participation à ce débat, monsieur.
Merci à vous, Armando.
Merci aussi à monsieur Jean Vingawen pour votre participation, monsieur.
Je vous remercie.
Vous êtes rapporteur général de l'Observatoire des études économiques et sociales et ancien coordinateur du guichet unique en République centrafricaine. Merci aussi à vous, monsieur Sosten Guettel Dinam Koro. C'est ça ?
C'est bien ça.
Merci aussi pour votre participation. Vous êtes colonel de douane et président du Parti panafricain pour les libertés et le développement, membre de l'opposition démocratique. Merci, c'était à la technique le service de Diane Stéphanie Bokula. Rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre sujet. Au revoir.